À CJSO 101.7 avec Luc Deloncourt. À deux, c'est mieux. C'est reparti.
On est à A2, c'est mieux avec Alexandre Dacosta. Salut.
Allô, allô.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Ça va bien aussi. Quelques jours après ta grande rentrée montréalaise à la Place des Arts, comment ça s'est passé?
Ah, c'était le fun. Là. Ça m'a tellement fait du bien là, d'aller jouer ce concert-là à cet endroit-là parce qu'on devait le faire en avril 2020. Là, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, on l'a repoussé. Puis enfin, on a pris la décision. On a dit, OK, là, ça va faire. On va le faire. Puis c'était le théâtre Maisonneuve était plein. C'était des gens qui avaient été hyper patients, qui avaient attendu un an et demi avec leur billet en main pour venir voir cette première qui finalement n'était plus une première parce qu'on avait fait le show quand même à plusieurs reprises avant. Mais c'était tellement chaleureux. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'avais beaucoup de musiciens avec moi sur scène. J'avais mon trio jazz. Puis j'avais un quatuor à cordes de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Fait que c'était vraiment des amis, des collègues. Puis on a eu du fun. Là, puis on voulait plus partir.
Tu présentais l'album Stradivarius Baroque, ton plus récent album. Évidemment, qui est sorti en 2019.
Oui.
Donc, qui est un peu tombé d'une craque à un moment donné, j'imagine.
Oui, non, c'est tout à fait ça. En fait, cet album-là, pour moi, là, c'était comme un peu un coming out de création, tu sais, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'albums. J'en ai, je pense, c'était mon 26e, celui-là. Puis, mais les 25 autres d'avant, c'était très classique, très puriste. C'était des grandes œuvres de musique classique comme Beethoven, Brahms et tout et tout. Puis là, celui-là, ben c'était des choses que je voulais faire. Je voulais mélanger les styles. Je voulais faire du jazz, du rock, du pop, puis mélanger ça avec le classique. J'ai invité plein d'amis chanteurs. On a entendu Bruno qui fait d'ailleurs deux chansons sur l'album. Il y avait mon ami Mario Pelcha, j'avais le pianiste Tory Butler, j'avais plein de gens avec qui je voulais travailler, mais dans un contexte qui n'était pas classique. Puis là, cet album-là est sorti, puis là, on s'est dit, OK, quelques mois après la sortie de l'album, ça y est, on part la tournée. Là, mettons, disons qu'on a été arrêtés dans notre élan. Mais ça reste que cet album-là, et puis ce show-là, il vit. Parce que il est tellement important pour moi que même si on a eu un moment où est-ce que ça s'est pas passé, ça va se passer. Puis ça, je l'ai eu la preuve de ça mercredi à la Place des Arts. Je veux dire, c'est un show que j'attendais de faire et que les gens attendaient d'entendre. Enfin, tu sais, démystifier cette espèce de frontière entre le classique puis le reste de la musique. Il y en a pas des types de musique autres que la bonne puis la mauvaise musique. Puis si on fait de la bonne musique, ben on peut tout mélanger, du jazz, du rock, du boogie, de l'électro, tout marche tant qu'on a l'amour de la musique puis on le fait avec son cœur.
Donc là ça marche. OK, c'est bon. T'avais cette envie-là, parce que tu joues de la musique depuis longtemps, toi, depuis l'âge de 5 ans, tu joues de la musique, avais-tu cette envie-là, depuis longtemps, de casser ce moule-là? Parce que t'en as fait de ça, toi, du concert classique, plus traditionnel, qui respecte, on se le disait, oh, oui, des normes qu'on sait pas qui viennent de qui, on sait pas pourquoi, mais est-ce que t'avais cette envie-là depuis longtemps de casser ça?
Ben, tu sais, moi, mon métier, depuis le début, c'est d'être un musicien classique. Fait que j'ai fait 2000 concerts partout dans le monde, là. J'ai commencé très tôt, puis j'en ai fait beaucoup, puis c'était le beurre sur mon pain, là, dans le sens que faire des concerts avec mon habit à queue noire, puis ma boucle dans le cou, sortir avec mon violon, faire mon petit salut, jouer ma pièce bien, bien difficile de 30-40 minutes avec un grand orchestre derrière moi, puis côtoyer des grands chefs d'orchestre, souvent qui avaient trois fois mon âge, sinon plus. Ben ça a été là, ma vie normale de tous les jours pendant des décennies. Puis à un moment donné, ben tu te demandes pourquoi tu fais ça, parce que c'est comme les Olympiques. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Ça, c'est une chose. Là, ça doit être parfait. Des fois, là, je pouvais regarder là, dans le journal du lendemain de où est-ce que j'avais donné un concert dans le fin fond de l'Allemagne. Puis là, je lisais la critique dans le train ou dans l'avion où est-ce que je m'en allais à un autre endroit. Puis là, ça disait tout ce qui s'était passé dans ma performance. Là. Tout. Là. S'il y avait eu, là, si j'avais replacé ma cravate dans le milieu, là, c'était écrit. Si j'avais raccordé mon violon dans le milieu de la pièce, c'était écrit aussi. Fait que tu te dis, ouais, c'est vraiment, là, c'est comme si on était au patinage artistique. Puis tu dis, oui, il fait le triple axel. Oh, il est tombé. Tu sais, donc, c'est vraiment ça. Mais...
Puis à la fin, Tatana.
Oui, c'est ça. La seule affaire, c'est qu'il n'y a personne qui regarde ça là, comme le patinage artistique. Donc, c'est un petit peu aussi solitaire. C'est un peu anonyme, tu sais, parce que quand je m'en allais, des fois, des grands concerts, il y a beaucoup de monde dans la salle, mais les gens, ils n'allaient pas nécessairement voir moi. Ils allaient entendre la musique du grand Beethoven. Puis là, ça donne, ah, si c'est Alexandre qui joue, OK, je l'ai déjà vu ailleurs, je le connais, mais il n'y a pas de relation humaine avec le public. Puis c'est ça qui m'a manqué tellement à un moment donné. Je me suis dit, oui, mais je peux-tu construire quelque chose avec les gens? Puis est-ce que je peux expliquer pourquoi j'aime cette pièce-là? Puis pourquoi je la fais comme ça? Puis c'est ça qui m'a amené à vouloir peut-être exploser le petit carré ou la petite boîte assez rigide qu'on nous donne en musique classique. J'ai commencé tranquillement. Puis aussi, j'ai fait des choses qui étaient complètement, tu sais, autre, en dehors des sentiers battus. Tu sais, je me rappelle, j'ai eu la chance de rencontrer Richard Desjardins, d'ailleurs grâce à un ami qui vient de Sorel, Alexandre Étier. Oui. Puis là, on a fait ensemble un trio, là, vraiment, on s'est fait un show, Richard Desjardins, Alexandre puis moi. Puis là, moi, je suis un méga fan de l'Espagne. J'ai habité là 14 ans. Je connais la culture vraiment très, très bien. Tu sais, je pense que c'est mon pays adoptif. Puis j'aurais aimé ça être espagnol d'une certaine manière. Mais c'était ça le show. Puis je pense que Richard et Alexandre aussi aimaient beaucoup cette culture-là. Bon, tu sais, Alexandre, c'est un guitariste. Donc, comment est-ce qu'on ne peut pas aimer la musique espagnole si t'es guitariste? Tu sais, c'est un petit peu la base. Puis... Richard, lui, il avait cette passion aussi pour les poèmes, pour tout ce qui était la culture profonde. Fait qu'il a fait un show de narration, un petit peu un survol de cette Espagne qu'on connaît peu. Tu sais, on pense à l'Espagne, on pense à la sangria puis les plages, mais c'est tellement plus que ça. C'est la musique, le flamenco, les poèmes. Il y a une certaine violence aussi intérieure là, chez les gens en Espagne. Fait que tu sais, c'est... On a fait un show qui était vraiment plus difficile d'accès quand même pour ceux qui sont, mettons, les fans de Richard Desjardins, puis plus facile d'accès pour ceux qui sont plus des amateurs mélomanes de musique classique peu. Puis là, on s'est rencontrés dans le milieu, puis là, on a eu quelque chose qui était vraiment magique. Puis pour la première fois, il y avait ce contact avec le public. Le public venait voir trois personnes qui sont de backgrounds différents, qui se sont joints ensemble pour faire quelque chose de spécial. Puis là, ça m'a donné la piqûre. Je me suis dit, OK, là, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des concepts. Je veux présenter quelque chose, l'expliquer. Puis là, j'ai fait un show qui s'appelle Stradivarius à l'opéra. Ça, c'était vraiment pour montrer que le violon, c'est comme une voix humaine. Tu sais, ça remplace la voix d'une grande soprano. Puis c'est très touchant aussi de la même manière. Puis des fois, on n'a pas besoin des mots. On a vraiment juste besoin de la musique. Puis après, il y a eu d'autres concepts comme ça. Puis là, je suis rendu à disons que je me suis affranchi pas mal. Puis celui-là, Stradivarius Baroque, qui était mon album, qui est sorti il y a assez peu quand même. Ben c'était ce chemin-là qui a débouché quelque part. Puis on peut pas dire que c'est une fin, c'est plutôt un début, parce que tout ce qui s'en vient à partir de maintenant va être accessible. Je veux démocratiser pas la musique classique, parce qu'elle a déjà démocratisé la musique classique. Moi, c'est le contenant que je veux démocratiser, parce que tu sais, des fois, on a peur d'aller voir un concert de musique classique parce qu'on se dit « Ouais, mais tu sais, c'est un peu élitiste, c'est un peu difficile d'accès, il faut connaître les œuvres avant. » Puis ça, c'est pas vrai. Parce que dans le temps là, de Beethoven puis de Mozart, c'était un gros party. Là. Les gens, ils disaient « Bon, qu'est-ce qui nous a pondu? » Tu sais, parce que c'est la première fois qu'ils entendaient ces œuvres-là. Il y avait certainement pas d'autres moyens de diffusion que d'aller voir le show. Fait que, puis là, les gens, ils riaient, ils criaient, ils dansaient, ils mangeaient, ils buvaient pendant le show. Ça applaudissait n'importe quand, comme je reviens dans mon patinage artistique. Fait que c'était, il y avait comme une certaine effervescence qu'on a perdue dans les dernières décennies, puis je sais pas pourquoi on a fait ça, parce que un concert classique, c'est une grande fête. Faudrait être plus lousse, puis être plus content d'être là, puis c'est ça que je veux faire revenir dans les concerts, si c'est possible.
Est-ce que c'est touchant de voir que les gens choisissent toi maintenant? Parce que là, c'est plus on va y aller parce qu'ils jouent du Beethoven. Là, c'est on va aller voir Alexandre Dacosta.
Ben c'est sûr, c'est touchant. Comme là, mercredi à la Place des Arts, j'étais tellement comme content de voir que, bon, premièrement, les gens ont été très patients et ont gardé leur bien, on en a parlé, mais c'est que je rentre sur scène, puis là, c'est comme, il y a déjà des applaudissements comme si j'avais déjà joué une pièce. Ça, c'est nouveau, tu sais. D'habitude, il fallait que je convainque. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est, les gens, quand tu rentres sur scène, c'est juste, ils te font un petit bonjour, bienvenue, là. C'est assez rapido presto. Puis après, c'est comme, bon, mais là, joue-nous quelque chose, on va voir si on aime ça, puis après, on va t'applaudir. Mais là, cette fois-ci, c'est comme si, en rentrant sur scène, les gens étaient tellement contents d'être là, puis ils m'ont fait un bel hommage. Tu sais, c'était comme, j'étais vraiment touché. Puis là, j'avais le goût de leur dire, attendez, là, peut-être vous n'aimerez pas ça. Là, puis là, vous allez vouloir reprendre vos applaudissements. Mais tout le long du show, là, on a gardé cette énergie-là. On a fait des blagues aussi pendant le show. C'est ça que je trouve qui manque aussi. Des fois, tu sais, se prendre trop au sérieux. C'est le fun de faire un petit peu d'humour. Puis avant, là, quand je parlais au public, puis je faisais une petite blague, bon, c'est sûr que je suis pas un humoriste, là, je suis pas rapide, puis j'étais un peu pince sans rire, fait que des fois, les gens, il y avait pas comme un cue que c'est là qu'il faut que tu ris. Mais, puis en classique, mettons, c'est, tu t'attends pas à ce qu'un musicien classique fasse une joke. Fait que des fois, je faisais une joke, puis là, on n'entend rien, là. C'est assez, c'est un peu fréquent. Mais là, c'est comme si les gens, ils s'attendent à ce que j'en pousse une coupe de temps en temps, fait que c'est plus libre, puis ça me fait vraiment plaisir. Puis ça montre aussi que on peut avoir du plaisir avec la musique classique. Puis tu sais, écoute, Mozart, c'était un humoriste. Mozart, c'était une personne qui riait tout le temps. C'était quelqu'un qui était, tu sais, qui était assez cocasse aussi, là. Il faisait des jokes à double sens beaucoup, là. Tu sais, mais ça, on connaît pas ça. Puis on lui a fait un petit buste à Mozart, puis on pense que c'est comme ça qu'il était, puis qu'il était tout le temps là, dans son grand habit avec sa perruque, puis qu'il était très stiff. Mais c'était pas ça, Mozart. Même chose pour Beethoven. Puis, tu sais, on s'entend que Beethoven est mort de la syphilis, et Schubert aussi. Bon, donc il devait aller à certains parties de temps en temps. Et moi, je me dis, ce serait le fun qu'on connaisse ce côté-là des grands compositeurs aussi.
Le 21 novembre, tu seras ici à Sorel-Tracy, au Marché des Arts des Jardins, à la salle Georges Godling, spectacle en après-midi qui s'appelle Stradivarius Intime. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce concert-là?
Bien, c'est vraiment comme une espèce de carte blanche parce que vraiment, je vais être avec un pianiste fabuleux d'ailleurs, qui s'appelle John Rooney. Et on va vraiment faire un survol de plein de pièces. Oui, il va y avoir des extraits de Stradivarius Baroque. Bien sûr, c'est juste nous deux. Donc, c'est différent que quand il y a la batterie puis la basse et tout et tout. Mais ça reste que on peut aller chercher peut-être quelque chose d'encore plus touchant en étant seulement que deux, parce que vraiment, on est là très, très proche du public et c'est une introspection un petit peu dans mon monde, dans ce que j'aimerais partager aux gens. Puis la sélection des pièces, ça se fait aussi un petit peu sur le moment, dans le sens que, bon, je suis pas comme Grégory Charles, je prends pas nécessairement toutes les demandes spéciales, mais disons que mon répertoire est assez large, puis des fois, tu sais, c'est une journée, je sais pas, aujourd'hui il fait beau, là, fait qu'aujourd'hui mon répertoire il serait peut-être différent de dimanche qui va pleuvoir puis qui va venter. Puis ça, je laisse cette place-là dans ce show-là parce que justement, on est juste deux. Donc, on a cette flexibilité-là. Puis j'ai hâte de le faire parce que c'est jamais la même chose. Donc, c'est pas un show qui est coulé dans le béton. Le setlist, comme je dis, il peut changer à n'importe quel moment. Et puis, ça fait en sorte qu'il y a une spontanéité. Puis des fois aussi, je sens le public. Tu sais, il y a une énergie qui vient du public. Ouais. Fait que je sais qu'est-ce que... On dirait que je le sais d'une certaine manière qu'est-ce qui... fitrait à ce moment-là, puis là, je prends une direction différente, puis c'est pour ça que Ben j'ai hâte. Puis ceux qui ont vu mon show, par exemple, à Montréal ou ailleurs, ben celui de Sorel, c'est sûr qu'il va être différent parce que, justement, on est juste deux puis on a cette flexibilité-là.
Est-ce que c'est particulier de faire des shows à deux? Parce qu'évidemment, dans les concerts classiques, on est souvent beaucoup sur scène. Deux, c'est autre chose. C'est vraiment une intimité avec ce public-là. C'est ce que tu veux, mais à deux, c'est encore plus particulier.
Oui, mais en fait, en musique classique, soit que t'es deux, soit que t'es beaucoup.
Ouais, soit que t'es
60. C'est ça. Fait que des concerts à deux avec des pianistes, j'en ai fait beaucoup partout, mais c'est encore une fois dans cette optique de choisir des pièces qui sont assez complexes puis assez longues, puis de faire un programme qui est vraiment très rigide. Là, ce programme-là, en fait, à deux, on l'a conçu parce qu'on se disait, OK, ben c'est la... Tu sais, il y a eu la pandémie, on pouvait pas se retrouver beaucoup de monde sur scène, on savait pas qu'est-ce qu'il y a... Fait que ce show-là, je me suis dit, OK, ben pour garder là, ce contact avec le public puis faire des concerts puis continuer à être actif dans ma tête, ben je vais faire ce concept-là qui est Stradivarius intime. Puis là, on l'a fait quelques fois puis ça a tellement bien marché parce que justement, c'est des petites pièces et ça dure entre 3 et 5 minutes la plupart des pièces, mais il y en a tellement puis il y a tellement de styles que finalement, je pense que tout le monde y trouve son compte à un certain moment dans le show. Puis je pense que c'est ça qu'on s'est dit, ben ce serait le fun de continuer à en faire, même si on a le droit d'être 60 maintenant sur scène. Et puis celui de Sorel Tracy, c'est celui-là que je propose.
Sens-tu une différence chez le public aussi? Toi, tu as voulu casser un moule. Est-ce que tu vois dans les salles un public qui n'est pas un public de concert classique généralement? Est-ce que tu l'aperçois, ça?
Oui, je pense que c'est hybride maintenant. T'sais, y a des gens qui aiment la musique classique, qui vont venir voir mes concerts. Parce que même si le moule est cassé et tout, moi, je reste avec mon désir de jouer le plus parfaitement possible et le mieux possible. T'sais, je pratique beaucoup, je m'entraîne énormément parce que pour moi, la qualité, c'est quelque chose qui est pas négociable. T'sais, je fais ça depuis que je suis tout petit puis j'ai vraiment été entraîné pour ça. Donc, mais c'est le contexte puis c'est le contenu qui change, qui devient beaucoup plus humain. Et puis, je pense que donc ceux qui sont habitués de voir des concerts classiques, ça ne peut pas leur plaire. C'est de la musique classique, c'est juste qu'on est plus proche entre nous, entre humains. Et puis, ceux qui ne sont pas habitués à voir de la musique classique, ben c'est justement, c'est facile de s'initier à ça. Puis mon but, moi, c'est que les gens aiment ça. Fait que si tous les chemins mènent à Rome, si en venant voir mon concert, après, ça ouvre une petite porte dans la tête des gens, puis que ça leur tente après d'aller voir notre orchestre symphonique de Longueuil qui fait des grands concerts classiques, puis après aller voir d'autres musiciens à la Maison symphonique, par exemple, de Montréal ou dans d'autres endroits où est-ce qu'il y a des grands concerts classiques, bien, c'est super. Moi, c'est ça mon but, là. Donc, je suis un maillon dans cette chaîne-là. Mais définitivement, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de casser l'élitisme. Tu sais, c'est quelque chose... Moi, je savais pas ça en passant, que c'était quelque chose qui était si frappant pour tout le monde. Mais quand j'ai commencé justement à faire mes shows, mes concepts différents, j'ai commencé à parler aussi beaucoup plus aux médias. Donc, c'est arrivé tellement souvent que justement, au début d'une entrevue, on dit « Ah oui, la musique classique, c'est tellement élitiste puis difficile d'accès. » Puis ça, l'entrevue commençait de même. Fait que là, je dis « Ouais, si on m'interview, puis c'est ça qui ressort au départ, qu'on a peur de ce que je fais. » C'est-à-dire que nous, en tant que musiciens classiques, là, pas juste moi, mais nous, ma communauté, là, il y a quelque chose qu'on a mal fait.
On dégage ça.
C'est ouais. Ça. Fait que ça veut dire qu'on a du travail à faire sur nous-mêmes. Puis c'est ce travail-là que j'ai commencé à faire. Puis je pense que là, on commence à récolter cet effort de se rapprocher des gens. Puis quand dans ma salle, là, c'est une salle qui est libre, c'est une salle qui est heureuse d'être là. Je l'ai toujours dit, on peut venir voir mes concerts avec une cravate ou avec une camisole. C'est toi qui décides, mais c'est tout le monde est bienvenu, c'est ça.
Est-ce que ça a dérangé l'élitisme, ça,
tu sais, oh, sûrement. Sûrement. J'espère, en fait.
Non, as-tu eu des commentaires? Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit que ça dérangeait?
Ben, tu sais, des commentaires, ça peut se donner avec des mots ou des yeux.
Ah oui, oui, oui.
je reçois beaucoup de commentaires non-verbaux, disons, de collègues, d'institutions, d'organisations culturelles de haut niveau. Bien sûr, tu sais, c'est comme...
terrible parce que c'est même pas le public dont tu parles.
Non,
c'est
non.
Les gens qui font le même métier que toi.
Absolument, là. Mais c'est eux que je dérange probablement beaucoup plus que... Le public, il n'est pas dérangé. C'est, le public, il a deux choix. Je viens,
viens pas.
Ouais, c'est ça. Fait que ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Mais les gens qui sont dans notre communauté artistique, ben c'est comme si on faisait du copier-coller depuis des décennies. Tu sais, il y a une manière de faire. Puis nos organisations, puis même nos gouvernements sont faits de même. Je veux dire, j'ai un ami qui me dit tout le temps, tu sais, gouvernement, les subventions, le milieu, c'est comme une machine à coke. Tu mets ta pièce, tu pèses sur le piton, puis la canette est tombe. Si tu mets pas le bon montant ou si tu pèses pas sur le bon bouton, ben ça tombera pas. Puis c'est un petit peu ça que j'essaie de changer. Moi, je veux pas nécessairement mettre le même montant puis le même piton que tout le monde. Je veux que ça soit différent. Je veux que chacune des organisations culturelles qui proposent quelque chose le fasse à sa manière. Tu sais, je veux dire, on le fait avec, par exemple, le ballet. Tu sais, t'as du ballet classique, t'as du ballet jazz, t'as du ballet contemporain, t'as du street dancing. T'as tout ça, puis c'est accepté parce que la danse, ben c'est l'expression des corps et tout. La musique classique, c'est comme si tous les orchestres symphoniques devraient jouer la même chose. Tout le monde en joue du Beethoven, du Mozart. Mais attends, peut-être qu'on peut le faire différemment. Peut-être que nous, on peut avoir notre signature. Est-ce qu'on peut être plus libre? T'sais, écoute, l'autre fois, j'ai fait ma première de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Puis moi, j'aime beaucoup ça, la mode. Fait que j'ai un ami qui est un grand designer à Montréal, qui est M. Denis Gagnon.
Ouais.
Puis Denis Gagnon, il m'a fait un habit à queue, mais en paillettes. En paillettes de plusieurs couleurs. Fait que déjà, en partant, quand je mettais ça, ça scrapait un petit peu certains collègues. Bon. Puis là, je suis allé le voir, on a fait des photos ensemble cet été. Puis là, j'ai dit, OK, là, on va au prochain niveau. Là. Habille-moi, mets-moi ce que tu veux. Fait que là, au début, il était conservateur. J'ai dit, ouais, mais pourquoi? Je vois tes affaires, c'est toujours éclaté. C'est pas parce que je suis un musicien classique qu'il faut que tu fasses attention.
Paye-toi
fait que là, je dis, c'est le temps là, de me mettre une perruque puis une jupe. Fait que là, il dit, OK. Fait qu'il m'a mis une perruque et une jupe. Fait que là, j'ai fait des photos comme ça. Puis là, après, j'étais tellement content de ma jupe. Il dit, Alexandre, pars avec. Fait que là, j'ai une jupe maintenant dans mon garde-robe. Quand est-ce que je vais mettre ça? Ben, je l'ai mis à ma première de saison à l'Orchestre symphonique de Longueuil. Tu peux t'imaginer. J'arrive avec une jupe sur la scène. Puis là, j'avoue qu'il y a eu un petit silence quand j'ai fait les premiers pas. Puis j'ai commencé mon concert comme si de rien n'était. Puis après, j'ai dit, oh, j'ai pris le micro, j'ai dit, vous voulez sûrement savoir pourquoi j'ai une jupe. Puis j'ai expliqué, puis là, ah, OK, mais c'est une création québécoise, ça marche bien, puis tu peux faire ce que tu veux. Écoute, on est des artistes. On est sur scène pour faire quelque chose de différent. Il n'y a personne qui veut venir voir comment un avocat ou un comptable fait sa job sur scène. Donc, mais moi, j'ai besoin des avocats et des comptables pour faire ma job. Mais ma job, moi, c'est de divertir les gens, de faire quelque chose de nouveau. Puis c'était la même job en passant. Celle de Mozart, celle de Bach, celle de Brahms. Ils travaillaient tous pour des nobles. Puis c'était eux, c'était de créer des choses pour pouvoir passer de la magie à des gens qui, autrement, ne vivaient pas quelque chose d'époustouflant. Donc, on a la même job. C'est juste qu'aujourd'hui, on a oublié que peut-être il faudrait faire un grand effort comme ces gens-là l'ont fait à leur moment.
Le spectacle va être le 21 novembre du côté du Marché des Arts des Jardins. La gang de Azimut lance un concours sur leur page Facebook. Tout ce que vous avez à faire, c'est qu'il y aura une photo de deux personnes d'Azimut et de nous deux. De Cindy, Lauriane et nous deux. Et vous écrivez en dessous avec qui vous voulez aller au concert. Le tirage aura lieu à 16h30 aujourd'hui. Alors, si vous voulez aller participer et voir le concert, sinon il y a des billets qui sont en vente également.
Il y a ma mère qui cherche un lift pour venir à ce concert-là à Sorel. Donc,
écrivez la mère d'Alexandre.
Oui, la mère d'Alexandre.
Évidemment, il y a eu une pause de concert à cause de la pandémie. Tu as fait les balcons symphoniques. Tu as joué devant des CHSLD. C'était comment? D'abord, comment est née cette idée-là?
Bien, c'est né du fait... Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que On se retourne, là, si on s'en retourne en mars-avril 2020, il n'y a plus de concert, il n'y a plus rien. Au début, on pensait que ça allait être quelques jours, deux semaines au max. Fait que là, on s'est dit, hey, deux semaines, pas de concert. Youpi, on va faire du pain, puis on va, on va rester à la maison. Après, c'est devenu quatre semaines, après six. Puis là, il y a un moment donné où est-ce qu'un artiste se dit, mais attends, est-ce que je vais être un jour utile de nouveau? Là, un violoniste comme moi ou un instrumentiste en classique qui ne joue pas de son instrument pendant une longue période de temps, c'est plus des vacances, ça devient le contraire à un entraînement. Fait que ça veut dire que chaque jour que tu perds de pas jouer ou de pas pratiquer, ça t'en prend deux pour revenir au niveau d'avant. Fait que oui, c'est facile de dire, bon, mais on continue à pratiquer chez soi, puis on s'entraîne, mais la vérité, c'est que c'est pas facile psychologiquement. Tu sais plus c'est quand que tu vas
jouer. Je fais ça pour rien.
Ouais. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est comme un peu aller au gym après avoir gagné la Coupe Stanley. Je pense que, tu sais, nos chers Canadiens, mettons, s'ils l'avaient gagné l'année dernière, ils auraient pris une petite pause, ça aurait été plus du golf, puis tu remets tes patins plus en août ou en septembre, n'est-ce pas? Fait que c'était un petit peu ça le sentiment qu'on avait. On se dit, ben là, je pratique pas parce que je sais pas quand est-ce que ça revient. Mais là, c'est un cercle vicieux, je deviens moins entraîné, je suis moins prêt à en faire. Puis là, ça a commencé à jouer avec ma tête, puis moi, je me dis, moi, il faut que je fasse quelque chose, sinon, je meurs. Puis là, au même moment, j'entendais le mot « essentiel ». Tout le temps, tu sais, les travailleurs essentiels, les services essentiels, tu sais, on nous a beaucoup, beaucoup parlé de ça. Puis là, moi, je me suis dit, oui, mais je comprends là, que... aller acheter de la nourriture, c'est essentiel. Je comprends que soigner les gens, c'est essentiel. Mais moi, j'ai quelque chose d'essentiel à donner. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais c'est certainement un vaccin spirituel ou un médicament psychique. J'ai quelque chose à donner qui est plus utile que juste à moi. Mais là, je ne peux pas le donner. Puis là, je me suis dit, OK, il faut que finalement, nous, on aille le donner, ce produit, disons, ésotérique, nous-mêmes, parce qu'on ne peut plus inviter les gens à venir nous voir. Et c'est là que je me suis dit, ben, l'endroit où est-ce que je suis le plus nécessaire, le plus essentiel, c'est là où est-ce que les gens ne peuvent pas sortir de leur chambre. Parce que dans ce temps-là, les gens qui étaient en CHSLD, en hôpitaux, dans leur résidence, ne pouvaient pas sortir de leur chambre. Tu ne pouvais même pas mettre le pied en dehors dans une zone ou une aire commune. Donc, le seul endroit où est-ce qu'ils pouvaient consommer de la musique, c'était sur leur balcon. Donc, le premier jour où est-ce qu'il a fait assez chaud pour sortir, c'était le jour de Pâques 2020, 14 avril 2020, je pense. Et puis là, on est sorti. J'ai pris quelques musiciens de ma garde rapprochée, si on peut dire, à l'Orchestre symphonique de Longueuil. Puis on a été donné trois concerts sous les balcons. Il faisait un peu trop froid pour faire ça, mais c'est pas grave. Mais on a eu tellement un retour chaleureux. Là, je veux dire, la lumière dans les yeux des gens, là, j'ai rarement vu ça. C'est comme si, ben, c'est sûr, là, il y avait une privation énorme depuis des semaines. Puis là, on arrivait avec quelque chose qui était... Tu sais, parce que regarder la télé, c'est une chose, mais je veux dire, vivre un moment, vivant, ouais. C'est ça, d'humain à humain, là, direct, ça, c'est différent. Puis ça a eu beaucoup d'impact. Puis ça, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup changé. Puis après ça, ben c'est comme... On pouvait pas juste arrêter là. On s'est dit, il faut en faire d'autres. Là, on a commencé à en faire d'autres. Là, j'ai écrit une lettre à la ministre de la Culture lui demandant si elle pouvait nous soutenir dans cette... ce projet-là. Puis la réponse a été extrêmement favorable. On a eu une très belle aide du gouvernement pour pouvoir entreprendre une tournée. Pas seulement quelques concerts, on a fait une tournée de 110 balcons symphoniques de Gatineau à Gaspé. Là. On a vraiment fait la run de lait. Là. On a été partout, partout, partout. On a vu les anges gardiens. On parlait beaucoup des anges gardiens, mais on les a vus dans les grands, grands, grands centres hospitaliers, puis les tout petits, tout petits. On a vu la bonté de ces gens-là, le don de soi. On a vu des patients qui étaient vraiment dans des positions très difficiles, très tendues. On a vu leur corps se relaxer pendant quelques minutes. T'sais, vraiment, là, justement, des infirmiers et des infirmières qui venaient nous voir nous dire « J'ai jamais vu mon patient être aussi, entre guillemets, normal pendant quelques minutes, là, avec sans bouger, sans tension, sans spasme, en écoutant tout simplement la musique. » Donc, la musique a un impact physique. OK? Ça, c'est je l'ai vu de mes yeux vus. Et je me dis, si on a fait ça puis ça fait tant de bien, ben c'est une mission sociale qu'on doit garder. Je veux pas qu'on se dise, ben là, c'est terminé, là, ce moment-là. Fait que là, on va retourner dans nos salles, on va faire nos affaires, venez nous voir, puis on sort plus. Non. Je veux garder cette possibilité d'aller donner des concerts pour les gens qui en ont le plus besoin. Donc, ça sera à travailler. On fait ça, bien sûr, quand Dame Nature nous le permet. Donc, en janvier, appelez-moi pas pour un balcon symphonique, ça va être plus compliqué. mais c'est ça, on veut garder ça. Puis moi, je veux continuer ce projet-là, cette mission-là. Et puis aussi, je pense que ça nous a donné l'opportunité d'être plus proches, les musiciens, ensemble, parce qu'on ne pouvait pas aller tout l'orchestre, donc on était des petits groupes, 6, 10, 12 musiciens. Puis là, ben, y a une relation humaine qui se passe, puis on le sait, là, faire une tournée avec des musiciens, c'est super, c'est magique, on se connaît plus, puis ce qui arrive en tournée reste en tournée. Fait que là, mettons qu'on a des bonnes histoires à se raconter pour plusieurs années.
Ça brasse les musiciens un peu classiques aussi? En tournée.
Ça peut. Au début, c'était tranquille, mais là, après 110 concerts, là, le vin a coulé à flot souvent.
Tu es le chef de l'OSDL, l'Orchestre symphonique de Longueuil, depuis déjà 3 ans. Tu viens de signer un contrat qui t'amène jusqu'à 2029. Est-ce que ça aide d'avoir des projets à long terme quand on est lié pour aussi longtemps?
Ah, définitivement, parce que, tu sais, ça passe vite, finalement, parce que la première année, ben on est là comme un petit peu en observateur, tu sais, on est là.
Parce que la programmation est déjà faite.
C'est ça. Deuxième année, là, on propose quelque chose. Là, en plus, on a eu cette situation qui, pour les artistes, là, on n'est pas encore sorti du bois, là. Ça fait 18 mois, là, on a été les premiers à se faire fermer, puis on va être les derniers à revenir à un niveau normal. Puis ça, c'est pas juste aussi le niveau de dire, OK, là, vous pouvez faire des concerts. C'est que tous les gens qui viennent nous voir doivent se sentir que c'est le temps pour eux de remettre les pieds dans les salles de concert. Donc, moi, je suis prêt. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts déjà, mais je peux comprendre qu'il y a des gens, ça va prendre un petit peu plus de temps, quelques semaines encore, puis on y arrive tranquillement, pas vite, puis ça va finalement avoir pris quasiment 2 ans. Fait que 2 ans, là, ça voudrait dire que si j'avais pas été renouvelé, ben je serais en fin de mandat, puis fait que finalement j'aurais jamais pu vraiment faire une saison qui, tu sais, à plein avec mes idées puis ma vision, puis convaincre les gens que ça a un intérêt. Donc cette marque de confiance que de m'avoir donné jusqu'à 2029, ben ça me donne de l'air, tu sais, ça me donne de l'oxygène pour pouvoir avoir aussi un plan stratégique. T'sais, parce qu'on peut pas tout faire en même temps. T'sais, je donne un exemple. Moi, ce que je veux beaucoup, c'est donner du travail aux musiciens de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Ça, c'est vraiment important pour moi parce que ce sont tous des grands musiciens qui ont étudié beaucoup. T'sais, ont des maîtrises, des doctorats là-dedans. Puis, tu sais, être musicien, là, c'est une question de vocation. Je connais pas un musicien classique dans les orchestres là, qui est riche, là. Donc, c'est vraiment des gens qui travaillent beaucoup pour peu, mais il y a cette possibilité de faire de la musique puis de partager quelque chose qui est magique. Puis ça, je pense, c'est ça la paye des musiciens. Donc, je veux que ces musiciens-là travaillent plus puis pas mieux parce qu'on travaille déjà très bien, mais je veux dire, je veux qu'on travaille dans les meilleures conditions possibles puis qu'on ait des moments fabuleux. Puis je veux exporter ce produit québécois qu'on fait qui est si bon. C'est parce qu'on est un incubateur d'idées puis de création, le Québec. Puis c'est pas partout comme ça dans le monde. Fait que de prendre l'Orchestre symphonique de Longueuil puis faire une tournée avec mon orchestre dans d'autres pays, pour moi, là, ça sert beaucoup de choses. Un, on donne du travail des musiciens d'ici. Deux, on vit un moment magique tous ensemble. Puis trois, on montre à quel point l'art puis la culture, c'est important ici, mais pas juste l'art et la culture, comme, tu sais, oui, c'est vrai qu'à Paris, puis à Vienne, puis à Londres, l'art et la culture, c'est partout, il y en a partout, mais il y a beaucoup de traditionnalisme. C'est des gens qui sont dans des séries de concerts très conservatrices. Nous, on cherche, on se réinvente. Tu sais, on s'est fait dire « réinventez-vous ». C'est vrai que les artistes, disons qu'on se réinvente depuis quelques millénaires, là, mais bon, on s'est réinventé vraiment rapidement ici, puis on a fait des choses que bien des artistes de d'autres pays européens et très avancés artistiquement n'ont pas fait. Donc, tu sais, comme là, j'ai une tournée qui était supposée arriver en 2020 en Amérique latine. Bien sûr, ça ne s'est pas fait, mais là, ça va se faire. À l'été 2022, j'amène les musiciens de l'Orchestre symphonique de Longueuil en Colombie, à Bogota, Bucaramanga, Medellín, puis au Brésil, tu sais, à Rio de Janeiro, puis à Sao Paulo. Je veux dire, ça va être fantastique, bien sûr, pour moi. Mais pour tous les musiciens, on va avoir des souvenirs pour toujours liés à ça. Ensuite, on va aller en Espagne aussi faire une tournée. On n'est plus canté non plus sur la rive sud de Montréal. Je veux dire, là, maintenant, on a fait nos 110 balcons symphoniques de Gatineau à Gaspé. Puis en passant, Gaspé, c'est pas à 8 heures de Montréal, même si le GPS le dit, là, c'est un mensonge. Fait que...
Mais d'accord.
C'est ça. Mais tu sais, on a eu beaucoup de plaisir à aller là. Mais là, on se dit, OK, mais on n'est pas obligé de jouer juste à Longueuil. On va jouer... Là, on a un concert bientôt à la Maison symphonique de Montréal. On se promène un peu partout. On a des concerts de Noël à Mont-Tremblant. Et on veut bouger. On veut venir vous voir ici à Sorel, l'orchestre. Donc, finalement, on devient un orchestre de plus en plus vivant. Puis ça, c'est dans mon plan stratégique. Ça se fait pas en 12 mois. J'ai besoin de temps pour le faire. J'ai besoin de convaincre du monde qu'il faut qu'ils investissent dans nous, produits culturels de haut niveau, à saveur locale. Et puis ça, mes 6-7 prochaines années avec l'orchestre vont me permettre d'aller au bout de ce que je peux faire.
Est-ce que le défi, c'est un peu ça, c'est de mettre l'éclairage sur cet orchestre-là qui est, tu l'as dit, en périphérie? On pense souvent aux grands orchestres qui sont à Montréal. Partout dans le monde, j'imagine que c'est le même problème. Il y a les grands orchestres des grandes capitales, il y a les autres orchestres.
Mais non, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, en Europe, moi, j'ai vécu là-bas 14 ans. Hein, puis en Europe, là, c'est sûr, tu sais, tu as Madrid, qui est une grande capitale, Paris, Berlin. Mais eux, c'est pas quelque chose qui les arrête. Là. Je veux dire, tu peux avoir le meilleur orchestre d'Espagne à Grenade. Grenade, c'est une ville magnifique. Oui, c'est la capitale d'une mini-province de l'Andalousie. Mais c'est pas un grand centre. Là. Et puis, mais cet orchestre-là, pendant que moi j'habitais dans ce coin-là, c'était considéré comme étant le meilleur orchestre d'Espagne. Donc, l'orchestre de Grenade se produisait à toutes les années à l'Auditorium national d'Espagne à Madrid et au Palais des arts de Valence puis de Barcelone parce que c'était considéré comme étant la représentation de ce qui se fait de mieux en ce moment en Espagne. Et puis, tu vois, à Berlin, par exemple, à Berlin, là, oui, il y a plein d'orchestres. Il y a l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre symphonique de Berlin, l'Orchestre du Concerthaus de Berlin. Tu sais, il y en a plein, l'Orchestre allemand de Berlin. Puis, tu en as d'autres qui sont des petites banlieues autour de Berlin. Puis, je pense que des fois, les orchestres des banlieues de Berlin sont plus considérés de haut niveau que certains des orchestres de la ville. Puis ils jouent tous à la Philharmonie de Berlin régulièrement. Donc, tu sais, moi, c'est ça que j'essaie j'essaie d'aller vers là. On est tous des Québécois. On a tous une certaine créativité. Chacun, on l'exprime différemment. Je parle de, tu sais, des chefs ou bien des orchestres puis des artistes. Mais à la fin, finalement, on représente pas une région. On représente une vision. Puis ça, ben ça peut pas être local. Une vision, c'est at large. Puis moi, je voudrais partager ma vision où est-ce que je peux rejoindre le plus de monde possible. Puis j'y vais, là. Je suis proactif. Je vais voir les gens où est-ce qu'ils sont. On le fait avec les balcons symphoniques. On va le faire avec nos concerts de série. Puis aussi, je veux que notre orchestre résonne dans les grandes salles qui sont à notre disposition. Je veux dire, tu sais, c'est comme dire... Le Centre Bell, là, ça appartient à tous les Québécois et parce qu'on a payé pour. Tu sais, mais je veux dire, c'est la même chose avec la Maison symphonique, c'est la même chose avec le Grand Théâtre de Québec. Ça nous appartient en tant que Québécois. Puis on est un peuple qui est assez tissé serré, puis on n'est pas tant que ça. Fait que je pense que nos 7-8 millions de personnes qui sont ici, on devrait tous avoir accès à ces endroits-là de temps en temps. Puis moi, comme musicien, je veux me produire ici à Sorel, je veux me produire à Longueuil, je veux aussi me produire à la Maison symphonique à Montréal, puis à Québec. Puis ça, c'est quelque chose qui se prépare, qui se travaille. Et puis, premièrement, ça part avec la qualité. Si tu as la qualité, puis tu as la vision, puis tu as quelque chose qui est intéressant, bien, les gens vont vouloir l'écouter. Mais si on fait pas nos devoirs, puis on fait pas notre créativité, on la développe pas, ben ça arrivera pas. Fait qu'on travaille fort, puis je pense qu'on est sur le bon chemin, mais les 6-7 années que je vais avoir, là, ça va me permettre ça, de le faire en ayant une étoile polaire clair, puis je sais que j'ai du temps. C'est pas beaucoup de temps non plus, là. Tu sais, 6-7 ans, ça passe de même, là. Mon fils a 7 ans, là, puis je me dis, coudon, il y a quelques moments, disons qu'il me répondait avec moins d'attitude il y a pas longtemps. mais ça va vite.
Alexandre, je vais inviter les gens à aller te voir ici en concert, Stradivarius Intime, avec John Roney, le 21 novembre à 14h au Marché des Arts Desjardins, la salle Georges Codling. Il y a un concert avec Bruno Pelletier aussi, concert de Noël.
Absolument, on a notre beau concert de Noël le 10 décembre à Longueuil avec tout l'Orchestre symphonique de Longueuil et mon ami Bruno Pelletier. Donc ça, ça va être magique. On a les petits chanteurs du Mont-Royal aussi qui vont être là. Donc vraiment un concert qui va être fabuleux, très, très, très beau. Puis on en a un aussi le 4 décembre à la Maison symphonique avec des membres de l'Orchestre symphonique de Longueuil. On a d'autres invités, Geneviève Leclerc, Christian-Marie Gendron. Puis il y a mon fils aussi qui va diriger l'orchestre avec une baguette de chef. Oui, oui, ça, c'est à voir. Ça, c'est le clou du spectacle.
Parce que moi, tu m'as déjà dit que chez vous, c'est lui qui dirige. Quand vous jouez ensemble, c'est lui qui dirige.
Ah, tout à fait. Lui, il dirige. Martine dirige tout le reste. Ça, c'est ma femme. Puis moi, c'est ça.
Toi, t'exécutes.
Moi, je dirige l'orchestre. Toi, t'exécutes. C'est ça.
Tu diriges et tu joues du violon en même temps à l'OSDL. Est-ce que c'est fréquent, ça, des chefs d'orchestre qui jouent en même temps?
Ça l'était avant. Tu sais, il y a peut-être 100 ans, là, c'était la norme. Vous connaissez sûrement tous les valses de Strauss, les valses viennoises. Bien ça, les valses de Strauss, c'était toujours dirigé d'un des membres de la famille Strauss avec le violon. Donc, il n'y avait pas de chef avec une baguette en tant que tel. Puis la plupart des symphonies de Beethoven, ils n'étaient pas non plus dirigés par un chef comme on le voit aujourd'hui. Fait que j'ai rien inventé. Je me suis juste dit que ce serait le fun de le faire. Puis moi, j'aime tellement ça, jouer du violon, puis être avec mes collègues, puis être vraiment dans l'action. Parce qu'une baguette de chef d'orchestre, là, ça sonne pas beaucoup. Alors, je me suis dit qu'avec mon violon, ben, je pourrais participer plus activement, puis je le fais le plus souvent que je peux. C'est sûr qu'il y a des choses que je peux pas faire avec mon violon, comme, tu sais, on a fait un show qui s'appelle Noël symphonique que vous allez revoir cette année à TVA, très probablement. Et là, je dirige des artistes comme Rock Voisine qui était là, et puis bon, des grandes sommités du Québec. Et puis, je le fais avec une baguette parce qu'il y a un grand orchestre, puis ça le demande. Mais sinon, 80% de mes concerts, je le fais avec mon violon, puis j'ai un beau violon, j'ai un Stradivarius de 1701, fait que c'est le fun de pouvoir l'entendre, de pouvoir le partager. Fait que ces concerts-là, 4 décembre à Maison symphonique, puis 10 décembre à Longueuil, je vais avoir mon violon avec moi, puis je vais jouer une de mes pièces préférées que vous allez sûrement reconnaître, c'est Amazing Grace. Puis j'ai une version là, pour violon et orchestre, c'est époustouflant. Là. C'est vraiment là. Ah ouais, ça fait un grand impact. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous.
Si les gens veulent avoir les informations sur l'orchestre, suivre, c'est sur le web qu'on a tout ça?
Absolument. L'orchestre, c'est osdl.ca. Sur mon site aussi, alexandredacosta.com. Vous pouvez regarder aussi sur les réseaux sociaux. On est pas mal actifs. Puis il y a toujours aussi la possibilité d'appeler au bureau de l'Orchestre symphonique de Longueuil. On est là pour vous servir. On vous donne plein d'informations. Puis c'est ça qu'on disait. Nous, on veut que les gens viennent nous voir. Fait que s'il faut, on va aller vous chercher chez vous, puis on va vous amener, puis on va vous reconduire après.
Alexandre, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.